Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce lundi 6 mai. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, organisera sa rentrée politique le 12 mai prochain à Yamoussoukro. Ce rendez-vous se fera autour du thème « Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation ?» Le prix du cacao, qui avait quadruplé depuis le début de l'année face aux craintes de la pénurie, vient de chuter brutalement et plusieurs explications concourent à cette chute. Dans ce journal, vous entendrez un expert spécialiste des questions agricoles. Hors de nos frontières au Togo, l'opposition appelle à se réinventer après sa défaite pendant ses dernières élections, tout en dénonçant une mascarade électorale. Et puis en fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction, Sylvain Nguesson, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire renoue avec le multipartisme. 34 ans après, que retenir, en compagnie de Francis Cassis, notre invité se prononcera sur la question. Voilà pour l'essentiel. Le COGEP, le parti de Charles Blé Goudé, tient sa rentrée politique ce dimanche 12 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Environ 4000 participants sont attendus à ces assises, dont le thème est « Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation ?» Sur les attentes de cette rentrée politique du COGEP, Dr Patrick Saraka, secrétaire général du COGEP.
Une rentrée politique, comme son nom l'indique, c'est l'ouverture, j'allais dire solennelle, officielle de l'exercice 2024 pour le COGEP. Nous avons eu notre congrès en novembre 2023 et la deuxième activité majeure est donc la rentrée politique 2024 qui se tiendra le 12 mai prochain à Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny autour du thème « Quel COGEP ?» dans une Afrique en mutation.
Justement, parlons de ce thème évocateur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça révèle?
Ça sous-entend que la Côte d'Ivoire doit être à la hauteur des attentes des peuples africains de façon générale, mais des peuples ivoiriens en particulier. À Yamoussoukro, ça sera aussi l'opportunité, l'occasion pour le COGEP de dire aux Ivoiriens ses réponses face aux maux, face à leurs difficultés, face aux réalités que vivent nos populations. Le COGEP a des réponses. Ces réponses-là, nous allons en donner les grands axes, les axes majeurs pour rassurer les Ivoiriens, pour qu'ils fassent davantage confiance au COGEP, pour qu'ils sachent que le COGEP peut changer leur quotidien, parce que 2025 ne se passera pas sans le COGEP.
Docteur Patrice Saraka, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP, a été joint par Constant Maïlé. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP envisage de mettre en place une coalition de partis politiques afin de discuter avec le gouvernement et ce, dans le cadre de l'amélioration du climat électoral en Côte d'Ivoire. Des contacts sont déjà tissés à ce sujet. Iriebi Zamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP, revient sur les motivations de cette initiative.
Il faut retenir que le RPP, présidé par le professeur Tshivhiko Doumbia, est un parti politique à une profession de foi, c'est de conquérir le pouvoir d'État par la voie des urnes, voire une élection démocratique. Et donc, pour ce faire, le RPP milite pour que les conditions du suffrage soient véritablement saines et équitables, justes et transparentes. C'est dans ce cadre que, pour les élections 2025, nous sommes organisés pour militer en faveur d'une coalition pour discuter avec le gouvernement pour créer toutes ces conditions-là.
Et les démarches sont déjà engagées?
Nous avons déjà pris des attaches avec des partis politiques de l'opposition dans un premier temps.
Et les partis politiques que vous avez déjà rencontrés, quelle est leur réaction face à votre initiative?
Alors, il faut dire dans un premier temps, l'initiative est saluée par l'ensemble des acteurs et je pense qu'avec Bonnie Claverie, nous sommes déjà bien avancés sur ce projet et avec elle, nous faisons toute cette tournée-là dans le but de pouvoir gagner toute la confiance de l'opposition dans un premier temps pour se mettre ensemble pour poser ces conditions-là. Je pense que déjà le président Affingué nous a reçu, a vraiment apprécié cette démarche et il a salué cette démarche. Madame Simon Mbawo, idem. Nous attendons maintenant la réponse du président Laurent Mbawo qui va certainement nous recevoir après leur investiture le 10 mai.
Iriebi Zamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP, joint par Junior Cardin. Le mouvement des générations capables, MGC, de l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo, a tenu le samedi 4 mai à Bandoukou, la deuxième édition de la fête de la liberté. La présidente de ce parti a dénoncé le manque de crédibilité du système électoral ivoirien actuel. Simone et Yves Gbagbo a par ailleurs appelé à l'union de toutes les forces vives du pays pour mener le combat des réformes électorales.
Nous sommes venus parce que le sujet qui nous convoque ici est d'importance. On parle de la fête des libertés. Je suis un défenseur des droits de l'homme. La liberté fait partie des droits de l'homme et je suis venu saluer cet acte-là. Nous connaissons comment la Côte d'Ivoire a évolué jusqu'à aujourd'hui. Une chose est d'avoir le développement infrastructurel tel que M. Ouattara le fait aujourd'hui, mais une autre est de toujours continuer à préserver, à promouvoir les libertés. La liberté n'est pas un droit acquis à 100%. Et surtout en Afrique, c'est toujours une quête. Donc en venant ici, c'est encourager nos dirigeants, nos politiques à toujours respecter les libertés des citoyens ivoiriens. Et ça a été une belle occasion. On a parlé non seulement de la liberté en tant que droit de l'homme, mais on a parlé aussi de la liberté économique et tous ces éléments. Donc nous sommes venus pour dire merci à l'ex-première dame, saluer son parti et demander à tous les partis politiques, ouvrez-vous aux Ivoiriens, ouvrez-vous à la société civile. On ne fait pas seul la démocratie, c'est ensemble qu'on bâtit une nation.
Voilà, c'est vous venez d'entendre plutôt Bogas Sako Gervais. Commercialisation du cacao sur les marchés internationaux, nous le disions en titre. Pour la première fois depuis des semaines, le prix du cacao connaît une baisse estimée à 25% du prix antérieur qui avait atteint près de 12 000 dollars, soit plus de 6 millions de francs CFA la tonne le 19 avril dernier. Quels sont les facteurs qui occasionnent cette chute des prix de cacao sur les bourses de Londres et New York? La réponse de Guillaume Nguessan, géographe et spécialiste du cacao, interrogé par Jean-Claude Comé.
Tout comme les autres produits à la commercialisation, il faut dire que ces produits subissent aussi la loi du marché. Alors, dans le contexte du cacao, l'évolution donc de la situation du marché a été favorable au cours du cacao. Aujourd'hui, on assiste donc à une baisse qui est nécessairement justifiée par le comportement du marché. Donc, nous pensons déjà que s'il y a baisse, déjà, il y a forcément des éléments du marché qui ont contribué donc à cette baisse des coûts.
Il y a une baisse pour l'instant, estimée à 25% des prix. Alors, quelles pourraient être les explications?
Nous sommes dans une phase de traite du cacao et dans cette phase-là, il y a disponibilité donc de produits sur le marché. Nécessairement, cela va influencer les prix. C'est un système un peu complexe parce que vous savez que dans le domaine, il y a les gros clients et puis il y a les clients moyens qui ont tous des contrats, mais qui sont ces clients moyens-là qui doivent revendre leurs achats aux gros clients. Alors, nous sommes dans un système économique où les spéculateurs cherchent l'opportunité idéale pour faire beaucoup plus de bénéfices. Alors, le fait que certains spéculateurs liquident leurs contrats pourrait expliquer cette situation donc de chute des coûts du cacao sur le marché mondial.
Guillaume Nguessan, géographe et spécialiste de cacao. La CEDEAO et l'UMO ont finalisé leur plan d'action pour une harmonisation des législations en matière de concurrence du 2 au 4 mai dernier à Abidjan. Cette réunion conjointe fait suite à la signature de l'accord de coopération CEDEAO-UMO sur la concurrence par les présidents des deux commissions qui ont instruit leurs départements respectifs d'élaborer un projet de plan d'action pour l'implémentation de cet accord. Matatouré l'a suivi pour nous. Voici son reportage.
On se souvient que lors des travaux de la 18e session interministérielle CEDEAO-UMO, en mars 2019, les présidents avaient instruit les départements de prendre des dispositions pour la tenue effective de réunions relatives à la finalisation d'un projet d'accord de coopération en matière de concurrence. Professeur Fliga Michel Sawadogo est commissaire chargé du département du marché régional et de coopération de l'UMO.
Il se trouve que l'UMO a déjà commencé très longtemps à mettre en œuvre les règles de la concurrence. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut coordonner un peu les actions pour voir quand un problème se pose dans un État ou dans plusieurs États, de quelle manière les compétences vont être réparties entre les deux organisations.
Massandé Touré, commissaire aux affaires économiques et de l'agriculture à la CEDEAO.
Si l'accord est effectif, qu'est-ce qui devrait changer dans cet espace CEDEAO UEMOA? C'est une meilleure coordination de nos actions. C'est une meilleure utilisation de nos ressources pour toujours un cadre économique concurrentiel au bénéfice de nos populations. C'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas des institutions concurrentes. Au contraire, nous sommes des institutions sœurs et nous travaillons pratiquement sur le même espace géographique.
Les deux commissions attendent donc beaucoup de ces assises qui ont lieu à Abidjan, dans ce sens qu'elles permettront de fixer les modalités d'une mise en œuvre harmonieuse des politiques en concurrence en Afrique occidentale.
Parlons santé à présent. Journée porte ouverte à l'OMS, le ministre de la Santé, Pierre Ngoundemba, présidait le vendredi 3 mai dernier au siège du bureau OMS Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle marquant la fin des activités de la célébration des 75 ans de l'institution qui avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a été question ce jour de la célébration de la journée mondiale de la santé 2024. Docteur Fatim Tall, la chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire.
Au terme de cette exaltante année qui a vu la célébration des 75 ans de notre organisation, nous vous devons reconnaissance et gratitude pour votre engagement à nos côtés. Nous sommes heureux de poursuivre la route avec vous pour le bien-être des populations ivoiriennes. Je voudrais réitérer l'appel de l'OMS à promouvoir la santé par l'activité physique. Nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires du fait du recours aux transports motorisés et de l'utilisation accru des écrans dans le cadre du travail, de l'éducation et des loisirs. Et c'est pourquoi nous voulons saisir l'occasion de cet événement pour Walk the Talk, c'est-à-dire joindre l'acte à la parole, en bougeant et en faisant bouger autour de nous, pour faire de la santé pour tous une réalité vivante. Cette journée va marquer officiellement la clôture de la commémoration des 75 ans de l'OMS en Côte d'Ivoire et dans le monde.
Docteur Fatim Tall, la chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Un mot de culture, la 8e édition du Djegele Festival, tribune de promotion et de célébration du Balafon, s'est refermée le samedi 4 mai au stade municipal de Boundiali. Une semaine durant, des artistes, musicologues et autres acteurs culturels se sont retrouvés pour des panels et des spectacles autour de cet instrument inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2012. De retour de Boundiali sur la 8e édition du Djegele Festival, Didier Blé.
Sur la scène de ce samedi 4 mai, un Eba solo du Mali de haut vol et un Djegele qui semble avoir atteint sa vitesse de croisière, Kone Dodo, directeur du festival.
Je crois qu'il faut retenir essentiellement la progression, améliorer ce qu'on a, de façon à ce que ce soit une industrie culturelle, créative et rentable.
Un festival comme le Djegele est un fort outil de développement local, Abdramane Kamate, directeur général du MASA.
Au-delà d'être une activité artistique, c'est bel et bien une activité de développement local. Ces jeunes-là, pendant ce temps, sont de cette façon instruits, ils sont de cette façon occupés sainement sur le festival. La culture devient, dans cette région-là, un outil de rayonnement national et international.
Ce modèle de promotion du Balafon est inspirant. Georges Diata, directeur du centre culturel de Tabakunda au Sénégal.
Quand je vois véritablement un festival qui promeut un instrument tel que le Balafon, cela m'inspire. Nos instruments traditionnels, s'ils ne participent pas, n'est-ce pas, à l'éclosion de nos artistes, peuvent devoir participer à l'échange culturel entre peuples. Inspirant parce que c'est un festival qui a lieu à 700 km de la capitale.
Rappelons également que sur scène ont brillé des artistes Molobali Keïta du Mali, Salif de Sobara de Burkina Faso, Jaël Boni et Oswald Kwame de la Côte d'Ivoire.
En page internationale, l'opposition togolaise appelle à se réinventer après sa défaite aux élections législatives du 29 avril dernier, tout en dénonçant une mascarade électorale. L'opposition n'a remporté que 5 sièges de députés sur les 113 à l'issue de ce scrutin. Selon la CNI, la participation a été de 61%. L'opposition qui avait boycotté le dernier scrutin législatif de 2018 comptait sur une une forte mobilisation de ses électeurs, mais le parti du président fort Yassine Bey, l'Union pour la République, a raflé 108 sièges de députés selon les résultats provisoires proclamés samedi soir par la Commission électorale nationale indépendante. L'invité de la rédaction, 30 avril 2024, il y a 34 ans que la Côte d'Ivoire a renoué avec le multipartisme. C'est ce dont il est question avec notre invité de la rédaction de ce jour, Sylvain Guessant, le directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Trois décennies après, le bilan du multipartisme est médiocre du fait des partis politiques, soutient l'analyste politique Sylvain Guessant, interrogé par France.
Docteur Sylvain Guessant, bonjour.
Bonjour, monsieur.
30 avril 1990, 30 avril 2024, il y a 34 ans que la Côte d'Ivoire effectuait son retour au multipartisme. Alors d'abord, votre avis là-dessus?
C'est une bonne chose que la Côte d'Ivoire soit sortie du monopartisme. Seulement que 34 ans après, on se pose la question de savoir si le citoyen de mars-avril 1990 aurait quelque chose à envier au citoyen ivoirien de mars-avril 2024.
Alors pourquoi une telle réflexion de votre part?
Oui, parce que l'espoir nourri au lendemain du retour au multipartisme, on n'a pas accouché le fruit espéré. Il y a eu le formalisme juridique, c'est vrai, c'est reconnu par la Constitution. Il y a eu plusieurs partis, on parle de plus de 200 partis politiques. Mais en termes de qualité de vie de l'Ivoirien, qu'est-ce qui a fondamentalement changé?
Donc, qu'auriez-vous souhaité voir ces partis-là faire depuis 90?
D'abord, il y a la maturité politique pour moins de violence, parce qu'on peut ne pas être d'accord sans en arriver à la violence. C'est chaque fois qu'il y a un désaccord, il doit avoir mort. Donc, après 34 ans, c'est à déplorer.
Selon vous, qu'est-ce qui fait que les partis politiques, ça donne à la violence?
Or, la Constitution donne trop de pouvoir au président. Donc, tout le monde aspire à un tel poste qui vous permet pratiquement de diriger l'exécutif, d'avoir le même pouvoir que le législatif, d'avoir le judiciaire sous votre autorité et de manipuler la société civile.
Par rapport à ce multipartisme-là, il y a un nom qui revient, le nom de Laurent Gbagbo, le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Votre avis là-dessus?
Il y avait plusieurs autres noms, Baïtagro, Vaudier, Zanizaourou, pour ne citer que ceux-là, mais M. Laurent Gbagbo était le plus actif. C'est lui qui a été candidat contre le président Oufou également, et c'est leur génération. C'est lui également qui a pu être président. Donc, c'est normal que l'histoire le retienne.
Alors, tout à l'heure, vous avez fait cas de violences suscitées par les partis politiques. Donc, dans ce cas, ne doit-on pas revenir au monopartisme?
Non, pas de retour au monopartisme. C'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs formations politiques pour que chacun fasse son choix, de sorte que la recherche du compromis soit l'orientation stratégique de chacun de nous. Et non camper sur sa position, qui naturellement débouche sur des actes de violence qui se soldent par mort d'homme.
Vous avez dit camper sur sa position qui peut se solder par mort d'homme. Voilà que le PPACI veut investir son président Laurent Gbagbo alors qu'il est sous condamnation judiciaire, donc lui privant ses droits civils et politiques. Et récemment, on a entendu aussi le secrétaire exécutif du RHDP qui a dit que ce monsieur ne peut pas être candidat. Ne sont-ils pas en train de faire le lit de la violence pour 2025?
Bien sûr, tout le monde sait que c'est la violence qui se prépare. Je suis un peu surpris parce que quand même, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est en juin 2022 que le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédié, père son âme, s'étaient retrouvés au palais. Et il avait été question de se retrouver régulièrement pour discuter des questions qui pouvaient menacer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Malheureusement, cette voie n'a pas été utilisée. Et voici qu'on revient encore au bras de fer qui, naturellement, va se solder par des actes de violence.
Dans ce cas, que faut-il penser des politiques ivoiriens?
Je pense que les politiques ivoiriennes ne respectent pas la vie de l'Ivoirien tout court. C'est leurs objectifs qui sont fixés qui les intéressent.
Dans ce cas, pour 2025 qui s'annonce, que faut-il faire pour ne pas qu'il y ait grabuge?
Mettre en place une table ronde pour soulever les problèmes qui menacent la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Je pense que c'est la voie la mieux appropriée en Côte d'Ivoire en ce moment.
Alors, depuis 90, et les autres domaines sociaux, économiques, la justice et autres?
L'appareil judiciaire est toujours sous l'autorité du président de la République, selon la Constitution. Le président demeure le chef suprême de la magistrature, donc on ne peut pas parler de liberté de l'appareil judiciaire. Concernant les droits économiques, sociaux et culturels, le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui. Les loyers ont atteint des sommets inimaginables. C'est vraiment déplorable qu'on en soit encore là.
Tout à l'heure, vous avez dit que la justice est sous contrôle du président de la République, mais ce n'est pas le président qui juge les affaires, dont les juges peuvent être indépendants.
Selon la Constitution, le président est le premier premier responsable de la justice. C'est lui qui nomme, etc., etc. Donc, celui qui veut avoir une promotion est obligé de faire des yeux doux à l'appareil exécutif. Ça va de soi.
Mais est-ce que c'est l'exécutif qui demande cela? L'exécutif, c'est vrai, non, mais le juge, il lui appartient de s'affranchir.
Pourquoi l'exécutif ne se désirait pas de l'appareil judiciaire? Ce serait plus simple. Par exemple, le procureur de la République, ce n'est pas le procureur qui le choisit, ce sont les pairs qui le votent en fonction de ses compétences, de ses capacités, et il est nommé pour 10 ans, pendant ces 10 ans, sauf faux trahison avec des preuves à l'appui, il demeure à ce poste. Et après ces 10 ans, il ne peut plus occuper ce poste. Le monsieur, il est tranquille dans la tête, il fait son travail.
Alors, est-ce qu'il y a pareil exemple, ce que vous dites là, ailleurs?
Le Ghana à côté de nous le fait.
Alors, on va terminer avec la presse. Pour vous, le multipartisme devait rimer avec une presse indépendante.
Une presse de qualité, en tout cas. Le recrutement, le fait de militants zélés, donc juste bon pour susciter la polémique et non pour faire des analyses vraiment profondes.
Alors, vous parlez de militants zélés, est-ce à dire que la presse en Côte d'Ivoire est une presse partisane adossée aux partis politiques?
Bien sûr, même le journal gouvernemental s'est pratiquement aligné. On ne parlera pas des autres journaux qui sont financés par des partis politiques.
Docteur Sylvain Guessin, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Sylvain Guessant, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, invité de la rédaction, répondait à Francis Cassis. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, organisera sa rentrée politique le 12 mai prochain à Yamoussoukro. Ce rendez-vous se fera autour du thème « Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation ?» Le prix du cacao qui avait quadruplé depuis le début de l'année face aux craintes de pénurie vient de chuter brutalement et plusieurs explications concourent à cette chute. Dans ce journal, vous avez suivi les explications d'un spécialiste des questions agricoles. Fin de ce journal, la rédaction sera de retour à 15h pour le flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Mel Amani sur Radio de la Paix.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la presse ivoirienne, nous constatons un tour d'horizon.